C'est le journal de 7h30. Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est à la une l'avertissement des maires. Les comptes des petites communes pourraient basculer dans le rouge avec la hausse des prix de l'énergie. Alors les élus locaux interpellent les candidats à la présidentielle. En Ukraine, la vie sous occupation russe. Témoignage rare dans ce journal. La Russie a déjà pris le contrôle de l'administration dans certaines villes de l'est du pays, vous l'entendrez. Près de 4 millions de réfugiés depuis le début de cette guerre. En France, des entreprises se mobilisent pour leur trouver du travail. Au sommaire aussi, le procès de l'affaire Narumi Kurosaki à Besançon. Et quand le gardien numéro 2 devient numéro 1, le temps d'un match, les Bleus du foot affrontent ce soir les Sud-Africains.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui, l'acteur Frédéric Pierrot et la réalisatrice Emmanuelle Berco pour la saison 2 d'En Thérapie sur Arte. Les maires des petites communes s'arrachent les cheveux, Alexis, pour boucler leur budget.
Oui, ils ont jusqu'au 15 avril pour voter les comptes prévisionnels de 2022. Mais cette année, l'équation est encore plus compliquée que d'habitude. Le volet dépenses augmente fortement avec la flambée des prix de l'énergie, mais aussi l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Alors dans ce contexte, les élus locaux préviennent d'ores et déjà les candidats à la présidentielle. Pas question de nous demander encore des efforts budgétaires, comme certains l'ont déjà laissé entendre. Sujet sensible, l'Association des petites villes de France est d'ailleurs reçue aujourd'hui par le gouvernement. Claire Chaudière.
Pour de nombreux élus, c'est le cumul qui ne passe pas. D'abord, la facture énergie qui explose, car les collectivités ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Nathalie Niaison est la maire de Bourg-de-Péage, 26 000 habitants dans la Drôme.
En 2021, j'ai budgétisé 300 000 euros pour l'électricité et le gaz, et là, 900 000 euros. Vous imaginez l'impact. Je n'ai pas envisagé d'augmenter les impôts, mais je sais que d'autres communes le font. J'ai décidé d'annuler un festival de la magie.
Quant à l'augmentation du point d'indice pour les fonds, c'est sur le papier une très bonne nouvelle pour le maire de Saint-Rémy-de-Provence, Hervé Chérubini.
On l'a compté à 3%.
Mais le calendrier, dit-il, et l'impact de la mesure le laissent plus que songeur.
L'annonce a été faite 15 jours avant que les collectivités votent leur budget. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase financier de nos collectivités territoriales.
Dans les locaux parisiens de l'Association des petites villes de France, son président Christophe Bouillon, maire de Barentin en Seine-Maritime, collecte les témoignages qui affluent.
Il y a des maires aujourd'hui qui s'arrachent les cheveux. On a au téléphone des maires qui disent supprimer le ramassage scolaire, fermer plutôt des équipements sportifs ou culturels. Franchement, c'est pas raisonnable.
À défaut de bouclier tarifaire, les maires demandent une dotation énergie de transition et espèrent convaincre exécutifs et candidats de la dangerosité d'un nouveau tour de vis budgétaire sur les collectivités.
À ce sujet, Marine Le Pen propose une remise à plat de la fiscalité entre l'État et les collectivités locales et une clause de revoyure tous les 3 ans. La candidate du Rassemblement National, tout juste de retour des Antilles. Après ce déplacement chahuté en Guadeloupe, la semaine à venir s'annonce plus balisée. Beaucoup de médias, mais peu de sorties. À 12 jours du premier tour, Marine Le Pen gère les images et sa fatigue, Élodie Forêt.
Privilégier cette semaine les plateaux et les interviews à la presse écrite au terrain, un choix qui n'a rien à voir avec les incidents en Guadeloupe, affirme l'entourage de Marine Le Pen, mais plutôt la conséquence des règles d'égalité stricte de temps de parole appliquées à toutes les radios et les télés. Un proche de la candidate concède, on sait que la couverture médiatique des déplacements peut être restreinte. Pas de dépenses d'énergie inutiles donc, alors qu'il faut désormais préparer la suite, une prochaine semaine marathon avec des matinales tous les jours, des déplacements pour appliquer la stratégie de proximité de la candidate et surtout un deuxième tour à anticiper. Il faut que l'on continue à travailler les sujets de fond, dit un stratège de la campagne, avec une attention particulière à ce qui pourrait marquer l'opinion ces prochains jours. Les retraites, la polémique autour des cabinets de conseil, se laisser aussi une liberté de réaction pour coller à cette maxime que Marine Le Pen affectionne. La politique, c'est l'art du moment.
Lui promet depuis le début de cette campagne la France des jours heureux. Fabien Roussel revient une nouvelle fois sur son concept favori. Contrairement à d'autres candidats, je ne fais pas campagne sur la déprime, explique-t-il sur Twitter. Pour le candidat communiste, la France des jours heureux, c'est avoir un bon salaire pour vivre et donc avoir accès à la culture, au sport et aux loisirs.
Il est 7h35 en Ukraine, Alexis. C'était une ville clé dans l'encerclement de Kiev.
Irpin, dans la banlieue de la capitale, les forces ukrainiennes affirme ce matin l'avoir reprise aux Russes. Nouveau revers donc sur ce front-là pour Moscou. À l'est du pays en revanche, là où l'armée russe veut concentrer son offensive, l'occupation de certaines villes s'intensifie à marche forcée et le quotidien de leurs habitants change rapidement. Étienne Monin.
Marina est une jeune éditrice installée à Kiev. En plus de l'angoisse des bombardements, elle est aujourd'hui coupée de ses parents qui sont en zone occupée.
Mes parents sont sortis manifester trois fois avec d'autres habitants. Mais la troisième fois, ce sont des Russes en armes qui sont venus. Ils ont dit « On ne vous écoutera plus, nous sommes ici et c'est comme ça ».
Le père et la mère de Marina vivent à Svatové, à côté du Donbass. D'après son récit, l'administration là-bas a déjà changé de main.
Tous les bâtiments officiels sont occupés. Ils enlèvent les drapeaux ukrainiens et ils les piétinent.
Dans leur maison, avec leurs 10 chats, leurs 2 chiens, les parents de Marina ont seulement accès à la télé russe. Pour la mère Galina, les occupants menacent l'histoire et l'identité ukrainienne.
J'ai peur que tous les livres sur l'histoire ukrainienne, sur la résistance nationale, les livres de poésie soient détruits. Il faut les cacher quelque part.
À Svatové, l'occupation se fait au pas de charge. La plaque du bureau du ministère ukrainien de l'Intérieur sur place a déjà été changée. Elle est maintenant en russe. Kiev, Gilles Gallinaro, Étienne Monin, France Inter.
Les regards sont aussi tournés ce matin vers la Turquie, où doivent reprendre aujourd'hui les négociations entre Russes et Ukrainiens. La dernière session, le 10 mars dernier, n'avait rien donné. D'autant qu'une information du Wall Street Journal sème le trouble. 2 négociateurs ukrainiens, ainsi que l'oligarque russe Roman Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs, ont souffert récemment de symptômes étranges. Des symptômes faisant penser à un possible empoisonnement. On y revient dans le journal de 8 heures. Près de 4 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début du conflit. 30 000 ont trouvé refuge en France. Et après la mobilisation des particuliers pour leur trouver un logement, c'est au tour des entreprises de leur proposer des offres d'emploi. Les premiers entretiens ont déjà commencé, Faustine Calmel.
Son entreprise de paysagiste au sud de Rennes emploie déjà plusieurs salariés en insertion. Alors proposer du travail à des réfugiés ukrainiens, c'était naturel pour Thomas Lalleux, directeur de Agi Environnement.
Donc 3 postes sont ouverts pour le moment. On attend encore que justement le processus d'arrivée en France soit bien clair, qu'il rentre en relation avec les différents services administratifs pour intégrer ces personnes-là dans nos effectifs.
Il faudra un permis de travail de la préfecture, gérer les problèmes administratifs et tomber la barrière de la langue.
Trouver quelqu'un sur Rennes qui parlerait ukrainien ou dans un langage très très proche, utiliser la technologie pour communiquer et puis l'anglais, on va trouver des solutions, ça va pas être simple.
Malgré ces difficultés, 10 000 postes sont à pourvoir dans les entreprises d'insertion et plusieurs milliers sur la plateforme ouverte spécialement pour l'Ukraine par Adeco. Le groupe d'intérim accompagne les entreprises dans ces embauches solidaires mais compliquées, admet Géric Devel, responsable des opérations de crise.
Les entreprises doivent vite comprendre que ce ne sont pas des entretiens de recrutement habituels. Parce que les gens sont sous stress, ne savent pas exactement comment se positionner géographiquement dans le pays. On est vraiment dans une démarche très différente. On est dans une vraie envie d'accueillir des gens.
Sur les 1800 Ukrainiennes et Ukrainiens inscrits sur la plateforme, 18%, le plus gros contingent, ont choisi de chercher du travail en France.
Explication signée Faustine Calmel. Entre 3 continents et 3 langues, c'est un procès complexe qui s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Doubs. Nicolas Zepeda, un jeune chilien, est jugé pour l'assassinat d'une étudiante japonaise, Narumi Kurosaki, en décembre 2016. Dans sa résidence universitaire de Besançon. Mais la jeune femme n'a jamais été retrouvée. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Alexis.
Alors Zepeda a toujours nié l'avoir tué, mais de très nombreuses charges se sont accumulées contre lui.
Oui, l'accusation arrive au procès avec une liste de 14 éléments compromettants comme ses relevés téléphoniques, ses repérages ou son achat de produits inflammables et puis les nombreux mensonges de Nicolas Zepeda aussi sur cette fameuse soirée de la disparition. Arrivé sans prévenir de Santiago du Chili, il emmène Narumi au restaurant, il la raccompagne à la cité universitaire. Et plus personne ne la reverra jamais. Dans la nuit, des voisins de chambre évoqueront des cris terrifiants. Et 24 heures plus tard, Zepeda quittera Besançon en faisant une halte surprenante de plusieurs heures en pleine nuit dans une zone isolée près de Dole.
Nombreuses charges, on le disait, mais un crime sans corps, sans aveu et sans témoin.
Oui, la défense de Nicolas Zepeda voit dans ce dossier l'acharnement des enquêteurs à s'être uniquement focalisé sur tout ce qui pouvait mettre en cause leurs clients et que faute de preuves formelles, de témoins, le doute doit lui profiter. Ce que conteste Edwige Roux-Morizot, procureur de Besançon au moment des faits, au micro d'Anne Fauvarc.
Il est rare qu'on ait des témoins en matière criminelle. Enfin, il y a des tas de viols qui sont jugés par une cour d'assises sans qu'aucun témoin n'ait pu dire que la personne qui conteste a violé l'autre. L'ensemble des éléments objectifs qui ont pu être recueillis très rapidement dans le cadre de cette affaire suffisent en tout cas pour le conduire devant les assises.
Place à 2 semaines d'audience pour ce procès inhabituel intégralement traduit en japonais et en espagnol pour que les familles de la victime et de l'accusé présentes ici à Besançon puissent suivre les débats.
Et le verdict est attendu le 12 avril. Le rebond des contaminations Covid commence sérieusement à se faire sentir dans les entreprises. 10 à 15% d'absentéisme ces derniers jours selon l'association des DRH. C'est similaire à ce qu'on avait connu en janvier et février dernier.
Il est 7h41, c'est un test pour l'équipe de France de foot à 8 mois du mondial.
Après leur victoire contre la Côte d'Ivoire vendredi, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud ce soir à Lille en match amical. Avec une nouveauté dans les cages, ce n'est pas Hugo Lloris qui gardera le but tricolore, mais Mike Maignan, habituel numéro 2, et qui va donc enfin prendre la lumière, Cédric Guillou.
On s'en doutait déjà, et Didier Deschamps n'a pas longtemps laissé planer le doute hier soir.
Oui, Mike débutera demain.
Mike Maignan, 26 ans, va honorer sa deuxième sélection, mais sa première titularisation chez les Bleus. Et ce sera dans une enceinte qu'il connaît bien, le stade Pierre Mauroy, lui l'ancien joueur de Lille, entre 2016 et 2021. Richard Gott est journaliste à La Voix du Nord.
Au départ, c'était un petit peu compliqué quand il arrivait, parce qu'on le trouvait pas très performant, pas très bon justement dans ce jeu au pied là où il s'est beaucoup amélioré. Mais il a vraiment progressé, c'est un gros bosseur et il a pris confiance et c'est là où il est devenu si important pour le LOSC.
Parti au Milan AC après le sacre des Nordistes, le Guyanais est vite devenu une référence en Italie, le défenseur Raphaël Varane.
C'est un joueur qui a de grandes qualités d'explosivité, c'est aussi un gardien qui a un super jeu au pied. Il apporte aussi son caractère, c'est un leader dans l'âme, c'est un joueur qui ne cesse de progresser et qui continue son évolution.
Cette titularisation ne changera pas le statut de Mike Maignan avant la Coupe du Monde au Qatar, mais c'est un rendez-vous pour l'avenir. L'occasion pour lui de montrer que la succession d'Hugo Lloris en bleu est bien assurée.
France-Afrique du Sud, rendez-vous à 21h15 à Lille.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre sur un